Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13:8. Lettre circulaire, décembre 2015. Je vous salue tous très cordialement, avec le passage des Actes des Apôtres, 26, 22. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Cela est arrivé, en particulier lors de la première venue de Christ, où plus de 100 prophéties se sont réalisées, et cela arrive maintenant, alors que les dernières prophéties s'accomplissent. Nous savons que Dieu a un plan de salut, dont il a fait l'annonce au travers de ses prophètes, et qu'il exécute au jour du salut dans lequel nous vivons. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ésaïe 14, 27. Paul avait reçu un appel, acte 9, et par cela, il avait également une responsabilité directe devant Dieu, laquelle ressort dans chacune de ses épîtres. Comme il a pu dire, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Acte 20, 27. Ainsi de même dans notre temps, tout le plan de Dieu nous a été nouvellement exposé par la bouche d'un vase mandaté et aussi révélé par le Saint-Esprit. Conformément à la promesse de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Malachie 4, 5, Matthieu 17, 11, le Seigneur fidèle a envoyé un prophète, avant sa venue, en tant qu'époux céleste, afin de restaurer toute chose dans son Église et de la ramener à son état originel. Considérons le modèle biblique d'un appel, et d'un mandat divin. Moïse pouvait dire, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Exode 3, 14, car l'Éternel lui avait parlé personnellement, « Je t'enverrai auprès de Pharaon. » Exode 3, 10 à 12. Acte 7, 34. À la demande du Seigneur, « Qui enverrai-je ? » Ésaïe répondit, « Me voici. Envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Il dit à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie 1, 7. Le Seigneur ordonna à Paul de se mettre en chemin, car « Je t'enverrai au loin vers les nations. » Acte 22, 21. « Afin que tu leur ouvres les yeux. » Acte 26, 17 et 18. Cela s'est réalisé par la prédication. Dans Jean 13, 20, le Seigneur Jésus souligne, « Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 20, 21, le Seigneur ressuscité dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Lui-même, en tant que Fils de l'homme, rend témoignage plus de 20 fois, depuis Jean chapitre 4 verset 34, jusqu'au chapitre 17 verset 8, disant qu'il a été envoyé. Se référant à sa venue, le Seigneur dit dans Malachie 3, 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Et dans Malachie 4, 5, nous trouvons la promesse suivante, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Dans ses 1200 prédications, frère Branham s'est référé plus de 200 fois au total à Malachie 4, 5, où le Seigneur lui-même dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Ce verset s'est accompli dans notre temps. Par ce ministère promis, tous ceux qui étaient dans l'Église à l'origine, dans la doctrine et la pratique, devaient être rétablis, comme le Seigneur le confirme dans Matthieu 17, 11. Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Jean-Baptiste également savait quelle parole de Dieu le concernait. C'est pourquoi il pouvait dire, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Chapitre 40 verset 3. Jean 1, 23. Dans Matthieu 11, 10, le Seigneur Jésus situe lui-même son ministère, car c'est celui dont il est écrit. Malachie 3, 1. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Dans cet exposé, il ne s'agit pas des ministères que Dieu a placés dans l'Église, tels que des apôtres, prophètes, bergers, docteurs, et évangélistes, pas plus que des anciens et des diacres, ni des dons de l'Esprit dans l'Église, mais il s'agit du dernier mandat, du dernier message, qui doit être prêché, non seulement dans une église locale, mais dans le monde entier, afin que l'église de Jésus-Christ soit ramenée à sa position initiale. Aussi certain que Jean-Baptiste pouvait témoigner, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit. Jean 1, 33. C'est avec la même certitude que frère Branham pouvait témoigner de ce qui lui a été dit, le 11 juin 1933, à savoir, comme Jean-Baptiste a été envoyé, pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message, qui précédera la seconde venue de Christ. Il pouvait rendre témoignage de son mandat direct et aussi de l'expérience surnaturelle du 7 mai 1946, lorsqu'il a été établi dans le ministère. L'ange qui entra dans la pièce, dans la lumière surnaturelle, se tenait debout devant lui, et dit, « Ne crains pas. J'ai été envoyé vers toi, de la présence du Dieu Tout-Puissant. » Il lui donna des directives, et dit entre autres, « Comme il a été donné de signes à Moïse, ainsi il te sera donné aussi de signes. » C'était un ministère surnaturel, confirmé par des guérisons extraordinaires. Les miracles de guérison devaient attirer l'attention des gens sur la présence de Dieu, et sur le message qu'il avait à apporter. Nous avons déjà souvent parlé et écrit au sujet du ministère particulier de frère Branham. En tant que témoin oculaire et auriculaire, je peux attester que Dieu l'a utilisé et béni en qualité d'évangéliste et de prophète, comme aucun autre dans notre temps, en confirmant sa parole. Mais maintenant nous ne sommes plus à la période de 1933 à 1946, ou à celle de 1946 à 1965, pendant lesquelles cet homme de Dieu a été connu dans le monde entier, par ses réunions de réveil et de guérison exceptionnelles qu'il a tenues dans 12 pays. Maintenant, il est question de la période spéciale dans laquelle nous vivons. Dieu, qui a fixé son plan de salut depuis l'éternité, l'exécute jusqu'à la fin conformément à sa volonté. Le ministère de Jean-Baptiste s'est terminé d'une manière inconcevable pour nous, soit par sa décapitation. Matthieu 14, 1 à 12. Le 24 décembre 1965, frère Branham succomba aux blessures dont il avait été victime lors d'un accident routier, causé par un jeune conducteur ivre, le 18 décembre 1965. Dieu ne fait pas d'erreur. Que nous le concevions ou non, le ministère de frère Branham était manifestement terminé. Toutefois, pas l'appel à sortir, et la préparation de l'église épouse. Le message devait être premièrement apporté dans le monde entier pour atteindre tous les peuples, les langues et les nations. Comme il conduit, je veux le suivre. On me demande toujours, surtout les frères dans le ministère, quand, et comment, j'ai connu frère Branham, et quelles expériences ont été les plus importantes pour moi. En 1949, le prédicateur connu David Duplessis, de l'Afrique du Sud, et un homme venant de Los Angeles, USA, nommé Allerman, qui priait pour les malades, ont été les orateurs dans les réunions de l'église pentecôtiste, Elim, appartenant au prédicateur Paul Rabé, à Hambourg. C'est de la bouche de Allerman que j'entendis pour la première fois le nom de William Branham, en relation avec le don extraordinaire de guérison. En 1951, je pris part à des réunions de l'église pentecôtiste libre, dans la rue Helmsbüttler, à Hambourg, chez le pasteur Oscar Lardon. Dans cette église prêchèrent également un germano-américain de New York, nommé Hans Waldvogel, et un suisse-américain nommé Richard Ruff, qui firent aussi mention de William Branham au sujet de son don de guérison et de prophétie exceptionnelle. À cette époque, le réveil de guérison mondiale qui avait commencé avec William Branham se répandait partout. En 1953, je reçus la version allemande du livre William Branham, un homme envoyé de Dieu, de la part d'Albert Goetz, le fondateur de la maison d'édition, Merlicht. L'auteur était l'américain Gordon Lindsay, de Dallas, au Texas. Ce qui était relaté dans ce livre suscita, en moi, une profonde impression. Quand j'appris que William Branham s'apprêtait à tenir des réunions spéciales à Karlsruhe, du 12 au 19 août 1955, il était pour moi évident que je devais y participer. C'est là que je fus témoin oculaire et auriculaire, pour la première fois, de son puissant ministère. Ce qui se passa durant le ministère prophétique de notre Seigneur se répétait devant nos yeux. Comme il put dire à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et à Pierre, quand il le rencontra pour la première fois, « Tu es Simon, fils de Jonas. » Jean chapitre 1. Ou à la femme au puits, ce qui se passait dans sa vie. Jean 4, etc. Ainsi de même en était-il avec le ministère prophétique de frère Branham. Lorsqu'il priait pour les malades, frère Branham voyait en vision des choses qu'il ne lui était pas possible de savoir, concernant la personne pour laquelle il priait. Quand il disait ce qu'il voyait, la foi du malade était tellement fortifiée, qu'il s'en allait guéri. Concernant ce don de vision prophétique, il s'est référé à Jean 14, 12. « Fera aussi les œuvres que je fais, et plus encore à Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, était le prophète promis. » Deutéronome 18, 18. Tout comme lui, frère Branham voyait en vision ce qui concernait les personnes à qui il parlait. Nous étions tous impressionnés par ce ministère extraordinaire, surnaturel, et confirmé, car devant nos yeux, des aveugles recouvrèrent la vue, des sourds purent entendre, et les paralytiques purent marcher. Jésus-Christ se manifestait comme étant le même qu'autrefois, alors qu'il était sur la terre. Hébreux 13, 8. Dès la première réunion, je savais qu'il s'agissait d'un homme envoyé de Dieu, car personne ne pouvait accomplir ce qui se passait, à moins que Dieu ne soit avec lui. Naturellement, j'avais l'ardent désir de connaître cet homme de Dieu personnellement. Cette occasion se présenta le lundi 15 août 1955. Je n'avais encore jamais connu auparavant une telle humilité et cordialité. Alors que je me tenais près du comptoir de l'accueil de l'hôtel, frère Branham arriva dans la réception, il me vit, et dit, en tenant sa main droite, légèrement levée. « Tu es un prédicateur de l'Évangile. Ta femme est là-bas à l'entrée. » Ce n'est qu'ensuite qu'il me serra la main et s'entretint brièvement avec moi. Cette expérience m'a tellement frappé, que je voulus rester en contact avec cet homme de Dieu. De ce fait, je saisis l'occasion pour participer à la grande conférence de Voice of Healing, à Dallas, Texas, en juin 1958. Durant les réunions du matin et de l'après-midi, plusieurs évangélistes mondialement connus prenaient la parole, et le soir, c'était frère Branham l'orateur principal. Je vis la différence, et j'abordai frère Branham avant une réunion. Je voulais savoir ce qu'il en était de son ministère, qui se différenciait de tous les autres. Il répondit. J'ai un message que je dois apporter. À la fin de notre entretien, il dit, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. 2 ans auparavant, j'avais émigré au Canada avec ma femme. J'avais acheté une maison et je comptais rester là-bas pour toujours. Toutefois, je pris ces paroles comme le ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi que le mois d'août suivant, nous étions déjà retournés en Allemagne. Durant notre entretien à Dallas, frère Branham me demanda de passer auprès de Leo Engine, les Taylor Boys, qui s'occupaient d'enregistrer ses prédications. Je reçus de leur part 5 bandes magnétiques, et je leur laissai mon adresse. Au début de sa prédication, intitulée « Nous voulons voir Jésus », du 12 juin 1958, frère Branham se réfère à notre entretien, en disant, « Juste un peu avant, un homme venant d'Allemagne m'a entouré de son bras, juste il y a un instant. Là-bas nous avions en moyenne 10 000 conversions chaque soir. 50 000 pendant 5 soirs. » Depuis ce moment, toutes les prédications de frère Branham sur bande magnétique m'ont été expédiées. Ainsi je pus suivre son ministère sans interruption, jusqu'à la fin. En décembre 1959, j'ai commencé à traduire les prédications dans un petit groupe de prière à Krefeld. Le 28 novembre 1963, frère Branham dit dans une réunion, « Le service avec les bandes magnétiques va dans le monde entier. Je pense, c'est une façon par laquelle Dieu fait entrer le message dans les pays païens. Là-bas, elles sont traduites. En Allemagne, ils amènent les bandes magnétiques dans les réunions, où des centaines se rassemblent. Le casque est mis aux oreilles et alors la bande est passée. Ainsi le prédicateur se tient devant des centaines de personnes et traduit dans sa langue ce que je dis. » Les plus importantes expériences. L'expérience particulière de mon appel au ministère et de mon mandat, vécu le 2 avril 1962, est connue de tous. Je prêchais déjà depuis 1952 car je me sentais appelé à le faire. Mais ce jour-là, j'entendis la voix pénétrante et imposante du Seigneur, prononcer les mots suivants. Mon serviteur, ton temps pour cette ville, va bientôt terminer. Je t'enverrai, dans d'autres villes, pour prêcher ma parole. Je répondis, Seigneur. Ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout à profusion, et vivent dans l'abondance. Alors le Seigneur répondit, mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Fais des provisions de nourriture et d'aliments, car il vient une grande famine. Alors tu te tiendras au milieu du peuple, et tu distribueras la nourriture. Et puis suivit l'ordre. Mon serviteur, ne fonde pas d'église locale. Et n'édite pas de livre de cantiques, car ceci est le signe d'une dénomination. Vu que des aliments, tels que pommes de terre, farine, et huile, avaient été nommés, nous avons effectivement emmagasiné des provisions dans la cave. Nous nous attendions à une grande catastrophe, car c'était la période de la crise de Berlin, de la crise de Cuba, et nous étions au point culminant de la guerre froide. Étant donné que le mur de Berlin fut érigé en août 1961, aussi bien dans l'Allemagne de l'Est que de l'Ouest et dans toute l'Europe, tous étaient inquiets de voir ce qui allait se passer. Comme les mois se succédaient et aucune famine ne survint, je me suis retrouvé dans une telle détresse intérieure que je ne voulais plus prêcher. En novembre, j'appelai frère Branham, le priant de m'accorder un entretien en urgence. Il eut lieu le lundi 3 décembre 1962, en présence des frères Fred Sotman et Banks Wood. J'étais assis à table en face de frère Branham et je m'aperçus qu'il était en train d'avoir une vision, du fait qu'il fermait un peu son œil droit. Ce faisant, il répéta exactement les mots de mon appel. Ensuite, il m'expliqua qu'il ne s'agissait pas de nourriture et de famine terrestre, comme je l'avais supposé, mais de la parole promise pour ce temps, la nourriture spirituelle que je devais emmagasiner. Dans sa prédication du 1er avril 1962, il parle de ce qu'il lui a été ordonné d'emmagasiner la nourriture à Jeffersonville. Cela se produisit alors que les prédications étaient enregistrées sur les bandes. C'est pourquoi chaque prédication m'a été envoyée. Il me dit aussi, que je devais attendre pour la distribution de la nourriture. Non pas pour la prédication de la parole, jusqu'à ce que je reçoive tout le reste. À la fin, il me demanda encore si je pouvais parler à sa place à la réunion des hommes d'affaires chrétiens, chez Demos Chakarian à Los Angeles, car lui-même se trouvait dans les préparatifs de son déménagement à Tucson, Arizona. Vu que mon vol de retour passait de toute façon par Los Angeles, j'acceptais volontiers. Le fait d'avoir eu un contact personnel avec frère Branham, d'avoir été dans sa maison, d'avoir mangé avec lui, et d'avoir été dans sa voiture avec lui, a pour moi une très grande importance. Je garde également nos conversations téléphoniques, et 23 lettres de sa part. La première, date du 11 novembre 1955, et la dernière du 30 septembre 1965. Comme de précieux souvenirs. Le plus important cependant était la relation sur le plan spirituel, que Dieu avait déterminée. Comme pour tous ceux qui côtoyaient frère Branham, sa mort subite fut, pour moi aussi, un grand choc. Quoique je le vis dans une vision, le 24 décembre 1965, monté au ciel sur une nuée. Un jour avant son enterrement, qui eut lieu le 11 avril 1966, j'ai pu voir une fois encore frère Branham aux pompes funèbres. Il reposait dans le cercueil, sans aucune blessure apparente, avec un léger sourire sur son visage. Au cimetière, le frère conducteur salua la congrégation en deuil, par les mots suivants. Nous sommes ici à cause de la résurrection du prophète. Le rassemblement compta sur sa résurrection le dimanche de Pâques 1966. Mais elle n'a pas eu lieu, c'est ainsi que sa dépouille mortelle fut déposée dans la tombe, alors que tous chantaient le cantique « Crois seulement, crois seulement ». Quant à moi, j'avais l'impression que mon monde spirituel, et tous mes espoirs attachés au ministère de frère Branham, s'étaient effondrés. Mais lorsque je retournai dans ma chambre d'hôtel, une paix profonde m'envahit, et j'entendis dans mon cœur, « Maintenant, ton temps est arrivé d'aller de ville en ville, et de pays en pays, pour apporter le message. » Pendant les deux jours suivants, le 12 et le 13 avril, je convoquai les frères à Jeffersonville. Tous les autres frères venus d'ailleurs étaient repartis chez eux, déçus, après l'ensevelissement, à l'exception de frère Livail, qui a écrit le livre Exposé des sept âges de l'Église. Jusqu'à ce moment-là, il n'existait en anglais que le livre sur les âges de l'Église, et la brochure de 48 pages, intitulée L'âge de l'Odyssée, ainsi que les livres, Le prophète du XXe siècle, et Un prophète visite l'Afrique du Sud. Il n'existait encore aucune prédication de frère Branham imprimée, et personne n'avait eu l'idée de le faire. Je proposais que Ray Borders, qui avait été le secrétaire de frère Branham et que je connaissais aussi personnellement, prenne la responsabilité de cette entreprise. Nous sommes convenus que les prédications enregistrées sur les bandes magnétiques soient imprimées et mises sous forme de brochures, afin qu'elles puissent être traduites en d'autres langues. Dans ma première brochure éditée en anglais, portant le titre « Only believe the first says the Lord, croyez seulement le, ainsi dit le Seigneur », j'ai présenté le ministère de frère Branham. Le tirage total d'impression comptant 85 000 exemplaires ont été envoyés avec l'adresse de Jeffersonville dans tous les pays où j'avais prêché. Ainsi, tous ceux qui étaient intéressés à recevoir les prédications imprimées en anglais pouvaient les commander à partir des États-Unis. À Krefeld, nous avons aussi commencé à traduire et à expédier les prédications imprimées en allemand. En 1966-1967, j'avais déjà tenu des réunions dans 25 villes d'Europe occidentale, dans lesquelles frère Perry Green aussi, suite à mon invitation, rendit témoignage de ce qu'il avait vécu dans les réunions de frère Branham. Ensuite des frères commencèrent à traduire aussi en d'autres langues. Ainsi, la propagation, orale, du message, a été complétée par la distribution des prédications imprimées, après le départ du prophète. Depuis 1968, j'ai prêché également dans toute l'Europe de l'Est, y compris à Moscou. Ensuite se sont ajoutés, le Caire, Damas, Beyrouth, et encore beaucoup d'autres villes sur tous les continents, où j'ai eu l'occasion d'apporter le message biblique. 14 années richement bénies passèrent ainsi sous la conduite directe du Seigneur et portèrent beaucoup de fruits dans le royaume de Dieu. Puis arriva l'année 1979, quand s'est déclenché l'enfer dans toute sa force pour me détruire avec l'œuvre de Dieu, par de très graves calomnies et diffamations intentionnelles. Même l'appel divin a été mis en question et discrédité. Ce n'est que grâce à Dieu et à sa miséricorde que l'ennemi n'est pas parvenu à détruire l'œuvre de Dieu. Un nouveau chapitre commença, dans lequel fut manifestée l'apparition de deux semences différentes, l'une provenant de la semence parole, l'autre de la séduction. Toutes les deux prient Dieu comme Caïn et Abel, toutes les deux chantent les mêmes cantiques spirituels. Mais la différence se manifeste, les uns calomnient, les autres sont calomniés, les uns haïssent, les autres sont haïs, etc. Sous cette mauvaise influence se produisirent des troubles et des divisions, au point que dans certaines localités se formèrent plusieurs prétendues églises du message. Une division ne provient jamais de la part d'un ministère établi par Dieu. Le signe distinctif de ceux qui sont sous une fausse inspiration et propagent des propres enseignements, est qu'ils attirent des disciples à leur suite. Actes 20-30. Pour justifier leur propre doctrine, les défenseurs se cachent derrière le prophète, qui est toujours mis en avant. Car selon leur affirmation, tous ont la Bible, mais personne ne l'a comprise. Ainsi, ce que le prophète a dit, n'est pas repris dans la parole, et n'y est pas non plus placé correctement. Mais cela est mis au-dessus de la Bible, bien que le prophète ait souligné des dizaines de fois les paroles d'Apocalypse chapitre 22, en insistant, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, et de la ville sainte. Personne n'est aussi reconnaissant que moi, pour le ministère de frère Branham, ministère semblable au ministère que notre Seigneur lui-même avait. L'homme, William Branham, était le vase consacré que le Seigneur utilisait. L'infaillibilité et le surnaturel qui s'est produit dans son ministère ne peut et ne doit être attribué qu'à Dieu. C'est pourquoi à Dieu seul appartient toute la gloire, la reconnaissance et l'adoration, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais au ministère prophétique se rattache aussi le ministère de docteur, afin que tout soit mis en ordre de manière biblique, conformément au plan du salut de Dieu. Que le Seigneur m'est destiné à apporter la parole révélée en tant que dernier message, provient de sa décision. Je ne l'ai pas voulu et je ne l'ai pas demandé. Toutefois, ceci doit être dit une fois encore, comme il ne pouvait y avoir de message sans un messager, de même sans cet appel divin, le monde n'aurait jamais connu le message. Frère Branham n'est plus sur la terre depuis 50 ans. Personnellement il ne peut pas, comme cela est faussement prétendu, précéder la seconde venue de Christ que nous attendons. Mais le message biblique qu'il prêcha est annoncé à toutes les nations. Le Seigneur a repris son messager, cependant le message a continué d'être apporté dans le monde entier. Le message est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Non pas des interprétations sur ce que frère Branham a dit. Bien sûr, il était jusqu'à la fin dans une grande attente des choses que Dieu va faire, et nous expérimenterons et verrons s'accomplir tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Citation, il y aura une telle puissance dans l'Église qui descendra alors. Le Saint-Esprit oindra le peuple de telle manière. Ils prononceront la parole et elle agira de manière créatrice. L'Église sera menée dans cette position, de façon à ce que la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entre dans l'Église. Cela ne durera que peu de temps. Faites attention, cela ne durera pas longtemps, mais cela se produira. 13 mars 1960. Citation, mais quand ce temps arrive, quand la pression commence, alors vous verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance, ce que vous avez vu maintenant de manière passagère. 29 décembre 1963. Comme on pouvait le dire au temps de Josué, ainsi en sera-t-il à la fin, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué 21, 45. L'Arche de l'Alliance et le Pectoral. Dans Exode 25, nous trouvons la description exacte de l'Arche de l'Alliance. Sa place était dans le lieu très saint, car c'est là que se trouvait la parole de Dieu révélée. Tu mettras le propitiatoire sur l'Arche, et tu mettras dans l'Arche le témoignage, que je te donnerai. Verset 21. L'Arche de l'Alliance avait une grande importance pour le peuple d'Israël, car au-dedans se trouvaient les commandements pour le peuple de l'Alliance. La parole de Dieu était le certificat de l'Alliance, 1 Rois 8:21, que Dieu avait faite avec son peuple. Ce n'était ni dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, depuis l'Arche de l'Alliance même, que l'Éternel Dieu parlait à son serviteur Moïse. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'Arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Verset 22. Comme le grand sacrificateur apporta le sang du sacrifice sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, Lévitique 16, 14, afin que tous les péchés du peuple soient pardonnés au grand jour de la réconciliation, Lévitique 16, 17, ainsi notre Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, a été immolé comme sacrifice pour nos péchés. Et il est entré avec son sang dans le sanctuaire céleste, le déposant sur l'Arche de l'Alliance, transformant ainsi le trône du jugement en trône de la grâce. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. En mourant, le Rédempteur s'écria, « Tout est accompli. » Jean 19, 30. Dieu a conclu une alliance avec nous. Le chemin vers le lieu très saint est ouvert. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Pour le pardon des péchés. Matthieu, 26, 28. À son entrée dans la terre promise, le peuple marchait derrière l'Arche de l'Alliance, que les sacrificateurs portaient. Les eaux du Jourdain se coupèrent. Lorsque les porteurs de la parole, croyant à la promesse de Dieu, eurent posé leurs pieds dans le Jourdain et entrèrent dans le pays promis. Josué 3. Même les murs de Jéricho s'effondrèrent lorsque le peuple suivit l'Arche de l'Alliance, selon les paroles de l'Éternel. Lors de l'inauguration du Temple, les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place. 2 Chroniques 5, 7. Quand s'éleva aux cieux la prière de Salomon avec les louanges du peuple. La gloire de l'Éternel remplit la maison. C'est ici une leçon. Dieu, l'Éternel, avait tout mis en ordre au milieu de son peuple de l'Alliance, et sa voix se faisait entendre du trône de la grâce à son serviteur, lequel transmettait au peuple. Sans cesse, comme aussi à l'inauguration du temple, le Seigneur mettait en garde son peuple de ne pas se détourner de lui, et de sa parole. Malheureusement, plus tard, Les scribes ont égaré le peuple de Dieu par leurs propres interprétations. C'est pourquoi le prophète dut leur reprocher. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Jérémie 8, 8 et 9. La même chose est arrivée au cours de l'âge de l'Église du Nouveau Testament, et aussi dans notre temps. L'apôtre Paul annonçait déjà à l'époque. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 3, 13 et 4, 4. L'arche de l'Alliance, et tout ce qui appartenait au lieu saint et au lieu très saint, devait être réalisé exactement selon les ordonnances divines. Regarde. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25, 40. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages, en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Exode 39, 42. Lumière et vérité. Nous arrivons maintenant au deuxième point. Dans Exode 29, l'établissement des sacrificateurs dans leur service est rapporté de manière détaillée. À l'entrée de la tente d'assignation, devait être sacrifié un bélier, et il fallait mettre de son sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, et sur le gros orteil du pied droit des sacrificateurs. Et puis, ils étaient consacrés à Dieu de la tête aux pieds, avec toutes leurs pensées, leurs actions, et leurs déplacements, par l'onction d'huile. Dieu fit confectionner le pectoral du jugement que le sacrificateur devait porter lorsqu'il entrait dans le sanctuaire, où se trouvait également le chandelier d'or et la table des pains de proposition. Sur le pectoral furent fixées 12 pierres précieuses, et furent gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Exode 28, 29. Dans Exode 28, 30, nous lisons concernant l'Ourim, et le Thummim, lumière, et vérité. Tu joindras au pectoral du jugement l'Ourim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Le sacrificateur devait toujours porter le pectoral lorsqu'il entrait dans le sanctuaire. Lévitique 8, 8. Quand quelqu'un voulait relater un songe ou une révélation, quand une décision spéciale devait être prise, cela devait se faire devant l'Ourim et le Thummim. La confirmation surnaturelle était la lumière rayonnante qui sortait des 12 pierres. Si la chose était vraie et que Dieu donnait son « oui », alors la lumière brillait. Si ce n'était pas vrai, alors elle ne luisait pas. Quand les Israélites du temps d'Esdras et de Néhémie, revinrent de la captivité babylonienne, tout ce qui faisait partie du service divin fut remis en fonction. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Ourim et le Thummim. Néhémie 7, 65. Frère Branham a fait mention de l'Ourim et du Thummim, 138 fois, expressément, le comparant à la parole de Dieu. Citation, l'Ourim et le Thummim étaient sur la poitrine d'Aaron. L'Ourim et le Thummim ont été recouverts avec les 12 pierres précieuses. Quand ils n'étaient pas sûrs, ils allaient devant Dieu pour recevoir une réponse. Si c'était la volonté de Dieu, la lumière brillait de l'Ourim et du Thummim. Dans le cas contraire, l'Ourim et le Thummim ne répondaient pas. L'Ourim et le Thummim ont disparu avec le sacerdoce. Dieu a maintenant un autre Ourim et Thummim, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'Ourim et le Thummim. Que la parole de Dieu soit reconnue pour vraie, et tout homme pour menteur. Dit Dieu. Ciel et terre passeront, dit Jésus, mais ma parole demeure éternellement. 9 juin 1953. 21 janvier 1961, entre autres. Ce n'est que lorsque la pleine lumière de la parole brille, que la parole devient une lampe à nos pieds, et une lumière sur notre sentier. Alors c'est juste. Et, dans le Nouveau Testament, cela sera confirmé par l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. En ce qui concerne le ministère de frère Branham, il a fait connaître tous les mystères par révélation du Saint-Esprit, que ce soit concernant ce qui s'est passé au commencement, dans le jardin d'Éden, ou l'enseignement principal de la divinité, ou le baptême biblique, le repas du Seigneur, ou même le sujet difficile du mariage et du divorce, ou encore sur les sept sceaux du livre d'Apocalypse. Tout ce qui a été révélé au prophète nous a été également révélé, en sorte que maintenant nous pouvons le transmettre par la prédication. À la fin, l'Église du Dieu vivant aura été ramenée dans son état originel et légitime, car elle est effectivement la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. C'est la promesse. Et le message accomplira pleinement dans les enfants de la promesse. Galates 4, 28. Ce pourquoi il a été envoyé. Ésaïe 55, 11. L'orientation spirituelle. La question qui est posée le plus souvent, en ce moment, est, qui sont les vierges folles ? Avant de nous inquiéter à propos des vierges folles de Matthieu 25, nous devrions plutôt nous soucier de faire partie des vierges sages. Comme tout le monde le sait, le chapitre 24 précède la parabole des 10 vierges, au chapitre 25. Je demande à tous de lire minutieusement Matthieu 24 dans la prière. Il y est aussi parlé de la dernière phase, dans laquelle nous vivons maintenant, de guerre, de famine, de tremblement de terre, et aussi que de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, lesquels feront de grands prodiges et des miracles, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais par la grâce de Dieu, cela n'est pas possible. Ensuite nous lisons l'avertissement de notre Seigneur, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Il dit aussi que le retour du Fils de l'homme serait, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Et non pas, qu'il durera des années ou des semaines. Ensuite, notre Seigneur fait référence au figuier, qui est déjà comparé à Israël dans Osée 9, 10. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Matthieu, 24, 32. Le peuple d'Israël est retourné dans sa nation, revenant de plus de 150 pays. Ésaïe 14, 1, Jérémie 31, 10, Ézéchiel 26, 24, Luc 21, 24. L'État d'Israël existe depuis 1948, et maintenant il y a de nouveau environ 17 millions de Juifs comme avant l'Holocauste. Le Seigneur dit de nouveau, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Verset 33. Ensuite, le Seigneur parle plus loin de son retour. De deux qui seront dans un lit, ou deux dans un champ. L'un sera pris, et l'autre laissé. Une fois encore, il fait ressortir, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. Et pour dernier avertissement, il dit. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme, viendra à l'heure, où vous n'y pensez pas. Tenez-vous prêts. Car ceux qui seront prêts entreront au repas des noces. Tout ce que le Seigneur a prédit dans ce chapitre, s'accomplit maintenant sous nos yeux, avec Israël, au Proche-Orient, et dans le monde entier. Dans Matthieu 24, 45 à 47, il est question de la distribution de la nourriture jusqu'à son retour. Le Seigneur pose lui-même la question, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Nous savons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Matthieu 4, 4. Deutéronome 8, 3. Dieu a promis qu'il enverrait la faim d'entendre ses paroles. Amos 8, 11. La table du Seigneur a-t-elle jamais été auparavant aussi richement apprêtée qu'elle ne l'est maintenant? La même nourriture spirituelle n'est-elle pas aussi distribuée dans le monde entier par les frères dans le ministère? En effet, l'Écriture s'accomplit visiblement sous nos yeux. Forcément, le Seigneur devait aussi parler d'un méchant serviteur, à la fin du chapitre 24, dans les versets 48 à 51. Mais il en a toujours été ainsi. Tout d'abord, le Seigneur envoie ses serviteurs qui annoncent sa parole. Et ensuite se présentent des hommes, qui s'auto-proclament, et qui présentent au peuple leurs propres interprétations, mais qui ne peuvent pas faire un rapport concernant un appel divin, ou un mandat. Pour Dieu, la chose est invariable. Sans appel, il n'y a pas d'envoi. Et il n'y a pas d'envoi sans appel. Dans, Matthieu 13, 34 à 43, Notre Seigneur a parlé de la bonne semence que lui-même a semée. Et tout de suite après, l'ennemi est venu pour semer la mauvaise semence. Toutes les deux ont poussé, l'une, ce sont les fils de Dieu, l'autre, les fils du malin. Il n'y a pas un seul pays sur la terre, où le vrai message n'ait été apporté premièrement. Ce n'est qu'ensuite que la mauvaise semence de l'interprétation a été semée. Dans Matthieu 25, le Seigneur continue en disant, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Il faut que tous soient bien conscients qu'immédiatement après Matthieu 24, au chapitre 25, verset 1, il est écrit, « Alors le royaume des cieux sera semblable. » Pas avant, et pas après. Mais, alors, quand tout ce qui appartient au chapitre 24 se réalise, et que la vraie nourriture est distribuée, s'accomplit la parabole des 10 vierges dans le royaume des cieux. Le message retentit maintenant toujours plus fort, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Dans un premier temps, toutes les vierges se mettent en chemin. Elles vont à la rencontre de l'époux, avec leur lampe à la main. Cependant, les sages parcourent le chemin jusqu'au but. Elles prennent avec elles leur vase remplie d'huile. Toutes s'endormirent et se réveillèrent, lorsque au milieu de la nuit le cri se fit entendre, « Voici l'époux ! » Toutes les vierges se réveillèrent, toutes nettoyèrent leurs lampes, mais au moment crucial, les lampes, la lumière des folles, s'éteignit, et pendant qu'elles voulurent aller chercher de l'huile chez ceux qui en vendent, l'époux vint. Les sages entrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Les folles arrivent trop tard, et appellent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais alors s'ensuit l'inconcevable réponse, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et juste après, intervient le sérieux avertissement, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Verset 13. Considérons-le encore une fois, au début, quand l'appel retentit, ce sont des vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Et à la fin, elles appellent devant la porte fermée. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Les vierges folles, dont les lampes se sont éteintes, ont tout d'abord la lumière. Elles expérimentent l'appel à sortir mais pas la préparation. Apocalypse 19, 7. L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité, et dans l'obéissance. Et seulement ceux qui se laissent conduire dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu sont les vrais enfants de Dieu. Romains 8, 14. Les sages prennent aussi le vase rempli d'huile. Ce que le prophète Élie dit autrefois, est encore valable aujourd'hui, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi 17, 14. Ils ont le pain de vie et la plénitude de l'esprit, et recevront les pleines bénédictions de la pluie de l'arrière-saison. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur étant le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5, 7. Les vierges sages constituent l'épouse. Elles atteindront le but lors du retour de l'époux. Les vierges sages croient absolument chaque parole de Dieu. Elles sont reliées par le ministère directement à Dieu, lequel mène son œuvre à l'achèvement. Elles rejettent chaque interprétation, et ne se laissent pas séduire. 2 Corinthiens 11. Ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin qui sera couronnée. De quelle manière se présentaient les apôtres? Paul commence son épître à l'église de Rome par ces mots, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » L'apôtre Jacques commence son épître par les paroles suivantes, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Jacques, 1, 1. De même, l'apôtre Pierre commence sa deuxième épître par, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, verset 1. » Au cours des années, le Seigneur fidèle m'a donné maintes fois des directives, et à chaque fois, il m'a interpellé par, « Mon serviteur, comme cela a déjà été rapporté dans plusieurs lettres circulaires, également dans celle de décembre 2005. Les vierges folles s'en moquent, elles ne croient qu'au mandat du messager, et non pas au mandat de celui qui continue à apporter le message. Tous, en effet, seront mis devant leur dernier choix. ce que Paul a dû écrire relativement au mandat reste d'actualité. Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10, 15. Je peux effectivement le dire aussi par sa grâce. Celui qui m'a envoyé, m'a dit. Cela n'a rien à voir avec moi, en tant qu'homme. Moi aussi je ne suis qu'un humain, un pécheur, à qui la grâce a été accordée, comme frère Branham disait de lui-même. A sinner saved by grace. Un pécheur sauvé par grâce. Mais nous avons affaire au plan de salut de Dieu et à ce qu'il a promis pour cette importante époque. Ce que notre Seigneur a dit est toujours valable, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et qu'en est-il de ceux qui ne le reçoivent pas? Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Matthieu 10, 14. Celui qui est de Dieu écoutera la parole de Dieu, et celui qui est né de Dieu, la croira. Les vierges folles passent avec mépris à côté de ce qui se passe aujourd'hui. À elles, comme aux autres aussi, s'applique ce qui suit. Voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Acte 13, 41. Les vierges sages n'ont pas seulement entendu parler de ce que Dieu fait maintenant. Elles ont une part directe, à l'œuvre de Dieu, jusqu'à l'achèvement. Mettons en évidence une fois encore l'importance d'un mandat. Dans le premier verset d'Apocalypse chapitre 1er, nous lisons. Et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Dans le dernier chapitre, il est écrit, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Verset 6. Et pour terminer, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Verset 16. Que ce soit un messager céleste, ou un messager terrestre, celui que Dieu envoie se trouve sous un mandat direct, et il dit les paroles de Dieu. Jean 3, 34. En ce qui concerne le ministère qui est exécuté maintenant, il s'agit également d'un mandat à l'échelle de l'histoire du salut. Un demi-siècle. C'est avec une grande gratitude que nous jetons un regard rétrospectif sur ce que le Seigneur a fait durant ces 50 dernières années, depuis le départ de frère Branham. Que frère Branham était le prophète promis reste un fait incontestable. Tout ce qui faisait partie de ce ministère unique et exceptionnel, du prophète et messager, s'est accompli. Son ministère est achevé. Frère Branham en tant qu'être humain, avait pleinement le droit d'être aussi un homme. Il avait le droit de faire part de ses attentes, que ce soit au sujet du troisième poule, des sept tonnerres, de la vision de l'attente, etc. Sa condition humaine ne rabaisse pas son ministère divin. Dans ce qu'il dit concernant ces sujets, il y a certaines choses difficiles à comprendre, et il en est malheureusement aujourd'hui encore comme au temps où Pierre se référait aux épîtres de Paul en écrivant. Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16. Les interprétations n'ont absolument aucun lieu d'être. Elles mènent à la propre ruine. Lorsque nous ramenons tout dans la parole, et que nous plaçons toutes choses correctement, alors même ce qui est difficile à comprendre devient compréhensible sans faire d'effort. Je vous demande, de la part de Dieu, d'avoir du respect pour la parole de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation arbitraire. Cela est aussi valable concernant le septième sceau, concernant les sept tonnerres, ou toutes les autres choses qui ont été divulguées partout après le départ de frère Branham, et qui ont éveillé de fausses espérances. Personne ne pourra m'empêcher de croire la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, et d'y placer harmonieusement, dans son contexte, ce que frère Branham a dit. Aussi certain que le Seigneur a achevé son œuvre de création, ainsi il est tout aussi certain qu'il achève lui-même son œuvre de rédemption. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6b. Nous sommes dans la grande attente de ce que, dans peu de temps, le Seigneur accorde une puissante phase. Avant que cela n'arrive, nous voulons demeurer fermes dans la persévérance, comme l'écrit l'apôtre dans Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il est écrit ainsi. Car l'Éternel se lèvera, comme à la montagne de Peratsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ésaïe 28-21. Ici, il ne s'agit pas de ce que les gens attendent, ou annoncent, mais de ce que Dieu a promis, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9-28. Au vu du sérieux du temps, aujourd'hui est valable plus que jamais ce que Paul a écrit dans Romains 16, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces, et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13, 11. Amen. Le Centre Missionnaire International. Lorsque je suis revenu de l'ensevelissement de Frère Branham, en avril 1966, et que j'ai commencé le ministère à plein temps, je n'imaginais pas l'envergure qu'allait prendre l'œuvre missionnaire en si peu de temps. Depuis le début, Dieu a pris soin, pour tout ce qui était nécessaire, de sorte que jusqu'à ce jour, nous avons pu distribuer gratuitement chaque brochure, livre, CD ou DVD. Même pour la construction des divers bâtiments, l'église en 1974, les autres bâtiments en 1978, et le dernier en 1990, jamais un crédit n'a dû être contracté. Jamais l'argent n'a été évoqué, jamais il n'a été fait de collecte pour des programmes particuliers. Je suis particulièrement reconnaissant pour les frères et sœurs qui mettent leurs divers talents à la disposition du Seigneur, les frères qui me secondent pour la prédication, les diacres au service de l'Église, le directeur de chœur pour les chants et les instruments, les traducteurs qui traduisent simultanément 12 langues durant les réunions internationales, et également toutes les prédications en brochure, ainsi que tous les autres qui travaillent ici au centre missionnaire, que ce soit au bureau, à l'imprimerie, à l'expédition, sans oublier ceux qui entretiennent la propreté et prennent soin de tout le centre missionnaire, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ici, le Dieu fidèle ne nous a pas seulement accordé une salle de réunion avec un balcon, mais encore un réfectoire, et une école du dimanche, ce qui permet de faire prendre place à plus de 1200 personnes aux réunions mensuelles. Le Seigneur a même muni nos frères de toutes les capacités techniques nécessaires et il a pourvu à l'équipement. De cette manière, nos réunions des premiers week-ends de chaque mois peuvent être retransmises en direct par l'Internet sur toute la Terre, et ensuite, 11 000 DVD sont envoyés chaque mois dans le monde entier. Également l'envoi des livres, des brochures, et des lettres circulaires se déroule sans difficulté par notre équipe. Je veux remercier ici de tout cœur frère Paul Schmitt et tous les frères qui participent à la prédication dans l'église locale, ainsi que tous les frères dans le ministère qui prêchent la parole dans tous les pays et qui distribuent la pure nourriture spirituelle. De même, je vous remercie de tout cœur, frères et sœurs, pour votre soutien à l'œuvre missionnaire dans le monde, par vos prières et vos dons. Que Dieu vous le rende, car c'est pour le Seigneur que vous l'avez fait. Chacun de mes nombreux voyages missionnaires effectués cette année passée a été également un triomphe pour la vérité. Le Seigneur a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Matthieu 24, 14. Chaque mois, des milliers de croyants se connectent par l'Internet de 172 pays différents, pour écouter les prédications et poursuivre avec nous les réunions en direct. Aux nombreux pays, qui diffusent depuis des années nos émissions TV, s'est ajoutée une nouvelle station émettrice à Lahore, au Pakistan. Au début, nous comptions 23 stations émettrices dans les pays arabes, aujourd'hui le nombre s'est élevé à 70, et toutes et émettent mes prédications une fois par semaine. Nous avons aussi régulièrement des émissions TV en Roumanie et en Bulgarie. Cela ne devra plus durer longtemps, jusqu'à ce que le dernier soit atteint. Même si déjà 50 années se sont écoulées depuis que le Seigneur a rappelé à lui frère Branham, Chaque année que le Seigneur nous accorde cependant, est une année de grâce. Ce que notre Seigneur a dit reste valable jusqu'à la fin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18 et 19. Le message est, les captifs sont délivrés, la dette est entièrement payée, tous les péchés, pour autant que ceux-ci lui ont été confessés et que nous les avons regrettés, même les péchés d'incrédulité et de désobéissance, sont pardonnés. Que chacun puisse prendre le temps au sérieux et dire, j'ai entendu la trompette de Dieu, j'ai compris le message, et j'ai accepté la réconciliation en Christ et avec mon prochain. Dieu a promis de rétablir toutes choses dans son Église et de la ramener à sa juste position. Ses promesses sont oui, et amen. 2 Corinthiens 1, 20 à 22. Il veille sur ce qu'il a promis. L'Église épouse sera ramenée à marcher au pas avec la parole et elle sera à la fin, en tout lieu, un cœur et une âme, comme au commencement. Aussi vrai que Dieu est vivant, en janvier 1981, j'ai vu et vécu l'enlèvement. Tous étaient jeunes, tous habillés de blanc, et nous avons été enlevés vers le ciel, et nous sommes entrés dans la nouvelle Jérusalem. Ma prière est que chaque personne qui lira cette lettre circulaire trouve grâce auprès de Dieu, se laisse corriger, et puisse entrer au festin des noces, lors du retour de Christ. Apocalypse 19, 9. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Apocalypse 22, 17. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. Commentaire des photos. Photo 1. La photo du centre missionnaire a été prise dimanche 4 octobre par nos frères Anselm Estuc et Mathias Miskis. Tous les premiers week-ends du mois, des frères et sœurs viennent aux réunions parfois de 30 pays différents, en avion, en train et en voiture. Photo 2. Un coup d'œil sur plus de 600 prédications de frère Branham sur bande magnétique qui m'ont été envoyées depuis juin 1958 jusqu'en décembre 1965. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, 6. Photo 3. Kinshasa, République démocratique du Congo, le 12 juin 2015. Photo 4. Târgu Mureș, en Roumanie, le 15 août 2015. Photo 5. Goiânia, au Brésil, le 15 novembre 2015. Pour l'année 2016, nous souhaitons de tout cœur à tous, dans toute ville et tout pays, les bénédictions visibles de Dieu. Tous ensemble nous relevons nos têtes, car nous savons que la rédemption de notre corps approche. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.